Vous écoutez On lit pour vous.
Le pneu crevé, un texte de Patrick Lagacé, paru le 21 janvier 2024, dans la presse. Il n'y aura pas de chiolage dans cette chronique. Je n'ai pas de chemise à déchirer aujourd'hui. Chronique tranche de vie. C'était le 9 janvier dernier et Sylvie Patnaud remontait Saint-Denis vers la métropolitaine, direction La Maison, à Anjou. Mais son auto faisait un drôle de bruit. Je vous le dis, j'avais frappé au moins 4 nids de poules ce jour-là. Madame Patnaud a décidé d'inspecter sa voiture avant d'embarquer sur la voie rapide. Tourne sur Crémazie, tourne sur Berry. Elle était certaine qu'il y avait un garage pas loin, mais elle n'en trouve pas. Elle se gare devant un autobus, sort de son auto. Ça n'a pas été long pour trouver la cause du bruit qui dérangeait Sylvie Patnaud dans l'habitacle de sa vieille Hyundai Accent, héritée de feu sa maman. Un des pneus avait été crevé par un nid de poule. Elle a appelé son chum. « Chérie, viens me chercher, j'ai fait un flat. C'est toi qui as la carte de la CAA. » Puis je suis allée voir le chauffeur de l'autobus, me dit Madame Patnaud. Il était en pause. J'ai cogné à sa fenêtre. Le chauffeur a ouvert. « Savez-vous où il y a un garage dans le coin, monsieur? » « Désolé, non. Pourquoi? J'ai crevé un pneu. » Le chauffeur de la STM est alors sorti de son mastodonte. Il est allé inspecter les dégâts et il a demandé à Sylvie Patnaud d'ouvrir son coffre. Puis, il a tout bonnement sorti la roue de secours et entrepris de l'installer en lieu et place du pneu crevé. Pas de gants, juste sa veste de la STM. Il faisait froid, là, souligne Sylvie Patnaud. Le chauffeur semblait savoir comment changer un pneu, relate Madame Patnaud, qui n'en revenait pas de voir cet étranger venir à son secours. Ça n'a pas pris 10 minutes. Une fois la roue de secours installée par le chauffeur samaritain, Sylvie Patnaud a voulu le remercier. Elle lui a offert de l'argent, sans succès, refus répété du chauffeur. Il m'a juste dit qu'il s'appelait Carlos. Carlos Diaz. J'étais sous le choc, monsieur Lagacé. Toute la journée, j'ai été reconnaissante. Je me disais, les chauffeurs de la STM font ça? Alors ce soir-là, j'ai retracé son patron. Je lui ai écrit pour souligner le bon geste de M. Diaz, mais avec une petite peur quand même. J'avais peur qu'on le punisse pour avoir pris le temps de m'aider. Vous savez comment les patrons peuvent être des fois. Le patron m'a rassuré. Non, non, on va pas le punir. On va soumettre son nom au méritas de fin d'année. Puis après, ben... Je vous ai écrit pour vous raconter mon histoire. J'ai adoré cette histoire. Mais étant astreint au plus haut standard de professionnalisme du journalisme canadien-français, il fallait encore que je valide si elle était vraie, cette histoire. J'ai donc fait marcher mes sources cachées à la STM. Bon, non, en fait, j'ai contacté le service des relations avec les médias en demandant qu'on me mette en contact avec le chauffeur Carlos Diaz. Boum, peu après, je l'avais au téléphone, ce monsieur Diaz et son accent ensoleillé, pardonnez le cliché, de la Colombie, sa terre natale. J'ai vu le pneu à terre et j'ai demandé à la dame, « Es-tu outillé? » Il faisait froid, oui, mais je l'ai fait. Ça ne m'a pris que quelques minutes. Elle voulait me donner de l'argent. J'ai dit, « Non, madame, ça me fait plaisir. Bonne journée. » Il se trouve que M. Diaz, arrivé au pays en 2008, est chauffeur d'autobus depuis 6 ans à la STM. Sa formation? La musique. Il a été chef d'orchestre, il enseigne aussi le violon. La mécanique? Il a pour ainsi dire grandi dans un garage. Mon père était garagiste. Aider, c'est dans les fibres de notre homme, un peu comme un super-héros qui traînerait toujours sa cape dans le panier de son Bixi. Carlos Diaz traîne dans son auto une batterie de voiture autonome pour pouvoir recharger celle des automobilistes dans le besoin. Ma femme, quand elle voit une auto en panne, me dit souvent « Ne regarde pas, on doit arriver à destination. » Elle trouve que j'aide trop les gens, nous dit Carlos Diaz. Mais quand même, Monsieur Diaz, vous n'aviez pas à sortir aider cet inconnu, Madame Patnaud, alors que vous attendiez de reprendre le service sur la ligne 135. Mais vous l'avez fait sans même hésiter, dans le froid, puis tout. Pourquoi? Je suis content de pouvoir aider. Ça me vient de ma mère, de mon père. Je suis latino. On s'aide. On fait ce que nos parents nous ont montré, vous savez. J'allais dire que nous avons besoin de plus de Carlos Diaz, mais je me reprends. Les Carlos Diaz sont partout, ils sont parmi nous, ils font du bien chaque jour. C'est juste qu'on ne les voit presque jamais dans les journaux manquent de tranches de vie. C'était « Le pneu crevé », un texte de Patrick Lagacé, paru le 21 janvier 2024 dans la presse.
L'inflation va-t-elle enfin ralentir? Un texte de Carl Rettino-Paracelli, paru dans la revue L'Actualité, édition mars 2024. Elle a été au cœur des préoccupations des consommateurs qui en ont ressenti les effets partout, à l'épicerie, dans les magasins, chez le concessionnaire. Elle a aussi causé du souci à la Banque du Canada, qui a employé un remède de cheval, soit pas moins de 10 hausses du taux directeur depuis mars 2022, pour tenter de la ramener à sa cible de 2 %. Une inflation qui ralentit signifie que la croissance des prix s'essouffle et que le pouvoir d'achat des consommateurs peut à nouveau augmenter, à condition que les salaires suivent le rythme. Scénario probable, un ralentissement de l'inflation. Les prix à l'épicerie devraient augmenter en 2024, mais à un rythme moins soutenu qu'au début de l'année 2023, moment où l'inflation alimentaire avait atteint plus de 10 % sur un an au Canada. Selon le rapport sur les prix alimentaires au Canada, parenthèse, produit chaque année par les universités Dalhousie, de Guelph, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, fin de parenthèse, l'augmentation totale de la facture ne devrait pas dépasser 4,5 %. Les croissances seront plus importantes pour les produits de boulangerie, la viande et les légumes, de 5 à 7 % et plus modestes pour les produits laitiers et les fruits, de 1 à 3 %. Des phénomènes météo extrêmes ou des conflits géopolitiques pourraient bien sûr changer le portrait. Une trajectoire semblable sera observée pour la plupart des biens de consommation. Après avoir atteint un sommet en juin 2022, parenthèse, augmentation annuelle de 8 % au Québec, fin de parenthèse, l'inflation s'est calmée et devrait se rapprocher de la cible de 2 % à la fin de l'année. Desjardins prévoit une inflation globale moyenne de 2,8 % au Québec en 2024, tout juste au-dessus de l'estimation de la BNC, 2,7 %. Pour que le pouvoir d'achat augmente, il faudrait toutefois que la hausse des salaires surpasse celle de l'indice des prix à la consommation. Or, on ne doit pas s'attendre à des augmentations aussi fortes que l'an dernier, soutient Mathieu Arsenault. les hausses salariales moyennes prévues au Québec par le Conseil du patronat du Québec oscillent entre 3,6 et 4,1 tandis que la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, FCEI, évalue l'augmentation à 2,5 à l'échelle du pays. Scénario moins probable, une inflation qui va perdurer. Pour ce qui est du scénario dans lequel l'inflation s'incruste, c'est-à-dire qu'elle se maintiendrait à un niveau élevé pendant longtemps, plombant les finances personnelles des consommateurs, il ne faut pas trop s'en inquiéter, selon Jimmy Jean. Citation : Le risque que l'inflation s'enracine sera plus élevé si on assiste à des chocs de l'offre au niveau mondial, par exemple une nouvelle flambée du prix du pétrole ou des problèmes d'approvisionnement. Fin de citation. Scénario improbable : une baisse des prix généralisée. Tout le monde aimerait revenir au prix d'avant la pandémie, mais il ne faut pas compter là-dessus. Du moins pas pour tous les produits qu'on consomme, nous avertissent les économistes. Il est très peu probable qu'on assiste à une contraction de l'indice des prix à la consommation ou déflation et donc à une baisse généralisée des prix. Citation : Les coûts de production ont augmenté substantiellement. Très peu de biens pourraient revenir à des niveaux pré-pandémiques. Fin de citation, dit Mathieu Arsenault en donnant l'exemple des véhicules automobiles dont la valeur a explosé au cours des dernières années. Jimmy Jean note cependant que la majorité des problèmes d'approvisionnement qui ont alimenté les hausses de prix sont maintenant derrière nous et que l'économie chinoise, puissance exportatrice par excellence, connaît actuellement une déflation qui devrait se poursuivre en 2024. Citation : La Chine exporte cette déflation. Fin de citation, explique-t-il, ce qui signifie que certains biens que nous importons de là coûteront possiblement moins cher qu'avant. C'était « L'inflation va-t-elle enfin ralentir ?» un texte de Carl Rétino Paracelli, paru dans la revue L'Actualité, édition mars 2024.
Recherche, tutorat et plus encore, un texte de Normand Baillargeon, paru le 13 janvier 2024, dans Le Devoir. Le plan de rattrapage présenté par le ministre Drainville est désormais connu. Il coûtera 300 millions de dollars. Ce vaste et ambitieux programme a généralement été très bien reçu par les acteurs du milieu, même si des réserves et des inquiétudes bien compréhensibles ont été soulevées, notamment sur le fait qu'on va miser sur le volontariat des enseignants pour offrir du tutorat en dehors des heures de classe. Cela dit, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul pour voir ce que signifie, ce qu'implique l'obligation de décider ce qui devra être fait dans un dossier comme celui-là. Ce qui se joue alors, et qui est complexe, est courant et même banal, et pas seulement en éducation, dans tout ce qui concerne le politique. Un pas de recul. D'abord, les faits pertinents ne sont pas toujours faciles à cerner et les variables à considérer sont nombreuses. Dans le cas présent, on devra, par exemple, tenir compte de différentes catégories d'élèves, des divers types de difficultés qu'ils peuvent avoir, des jours de retard accumulés, le nombre étant différent selon les syndicats, du fait que les écoles varient passablement d'un milieu à l'autre, et de bien d'autres données. On sélectionnera nos faits pertinents et cela sera matière à débat. D'autant que, pour ce faire, on se sera donné des finalités, des buts. On constatera vite que ceux-ci font aussi l'objet de débats, d'autant plus que le milieu dans lequel nos décisions vont avoir des impacts comprend de nombreux groupes, aux intérêts, aux points de vue et aux convictions parfois bien différents, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela vaut aussi pour la société tout entière, qui aura elle aussi son mot à dire sur les décisions prises. Ajoutez à tout cela qu'il se trouvera toujours quelqu'un, disons un philosophe, pour vous rappeler que les valeurs qui guideront vos actions ne peuvent être simplement déduites des faits que vous aurez retenus. Pire encore, elles auront sans doute influencé votre choix de ces faits. Il vaut mieux le savoir. Arrêtons là. Vous aurez compris mon point. J'avance qu'il est sage, dès lors qu'on prend tout cela en compte, de se fier aux données les plus solidement établies, de choisir, en les rappelant clairement, nos valeurs les plus importantes et idéalement consensuelles, et de s'en remettre, pour l'action, aux théories les plus validées, du moins là où elles existent. Et partant de là, d'agir en sachant qu'on va immanquablement déplaire à certains. Ce qui précède commande un respect des données probantes, là où elles existent, un choix de valeurs consciemment adopté et défendu, une certaine modestie et la volonté de voir si ce qui aura été mis en place fonctionnera ou non. Le plan Drainville. Que penser du plan Drainville si on l'examine à la lumière de cet éclairage? Je ne peux entrer dans tout ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet, mais je tiens à applaudir à une chose, à formuler une espérance et à avancer une piste d'action. Les applaudissements. Ce plan, et c'est assez rare pour mériter qu'on le souligne avec force, prend judicieusement en compte des données probantes solides. Car le fait est que le tutorat, ça fonctionne. Mieux encore, la recherche aide à préciser les conditions dans lesquelles il est le plus efficace. Voici quelques questions dont il faut tenir compte. Qui fait ce tutorat? À combien d'élèves à la fois est-il proposé? Qui enseigne-t-on précisément? À quelle fréquence le fournit-on? Où cela est-il fait, à l'école ou ailleurs? J'espère que tout cela sera sérieusement examiné quand on fera ces tutorats. L'espérance. Une valeur affirmée dans ce plan est la conviction que les enseignants et tout le milieu vont volontairement offrir cet indispensable tutorat dont ont tellement besoin les élèves en difficulté qu'il faut impérativement aider. Je comprends les réserves exprimées ici et là. Mais je conserve l'espoir que, conscients de leur rôle et de l'importance de leur travail pour l'avenir de ces enfants, les enseignants et les autres professionnels vont massivement, même s'ils en ont déjà tellement sur les bras, répondre présent. Et pas seulement eux. Voici justement ma piste d'action. Pourquoi ne pas, rapidement, imaginez diverses manières permettant aux personnes qui étudient en éducation de venir travailler dans les écoles pour contribuer au tutorat. Un très grand nombre de cours donnés dans ces programmes universitaires pourraient très facilement incorporer ce type de travail dans leur enseignement et leur évaluation. Les écoles et les élèves en bénéficieraient, bien entendu. Mais les étudiants universitaires en éducation aussi. C'était « Recherche, tutorat et plus encore », un texte de Normand Baillargeon, paru le 13 janvier 2024 dans Le Devoir.
Les friperies comme mode de vie. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir. L'inflation et le coût de la vie incitent beaucoup de consommateurs à opter pour l'achat de seconde main. Mais dans bien des cas, le souci d'économie n'est pas la principale préoccupation des amateurs de magasins de biens usagés. Les problèmes environnementaux liés à l'industrie textile et le plaisir de débusquer des trésors pèsent lourd dans la balance. L'économie circulaire a le vent en poupe. Quand elle est arrivée au Québec en 2001, avec son mari, Farida Abel, avait peu de revenus et s'est tournée vers les friperies et les magasins de seconde main pour habiller leurs enfants et meubler leur appartement. Pour Farida, le recours à ces commerces avait quelque chose d'un peu honteux. Je disais à mes enfants de ne pas le dire de peur qu'ils soient mis à l'écart, relate-t-elle. Les années ont passé, Farida s'est trouvée un bon emploi, sauf que l'habitude de courir les friperies ne l'a jamais quittée. C'est devenu un mode de vie. On trouve des aubaines et on évite la surconsommation, dit-elle. Mes enfants sont grands et ils achètent rarement du neuf. Amélie Mas a aussi fait de l'achat de biens usagés une règle de vie, un peu pour les économies, mais surtout pour les avantages environnementaux. Cette Gaspésienne d'adoption soutient n'avoir rien acheté de neuf depuis 3 ans, si ce n'est un téléphone. « Mais je lis de travers dans le cœur, » dit-elle. L'achat de seconde main est tellement entré dans ses mœurs que lorsqu'elle s'est mariée l'an dernier, Madame Mas a décidé de faire un événement sans achat et a demandé à ses invités de respecter ce thème. Les friperies du coin ont été prises d'assaut, mais tout le monde était beau. Les gens ont fait un effort et sont allés dans des friperies où ils ne vont jamais, dit-elle. C'est vraiment une façon de faire autrement. Ce n'est pas une privation, c'est de la grosse joie. Moi, j'adore ça. Il n'y a pas de honte à magasiner dans les friperies, estime Caroline Belle-Rose, qui, après avoir été cliente pendant des années, est devenue bénévole dans un magasin de seconde main en Montérégie. En fait, les friperies veulent vendre le linge. Si c'est pour une cause, cet argent va servir à acheter de la nourriture, pour une banque alimentaire, par exemple, dit-elle. Certains organismes ont d'ailleurs des surplus de vêtements. Les boutiques ne s'adressent pas uniquement aux plus démunis, renchérit Amélie Mas. Ce n'est pas comme aller dans une banque alimentaire quand on n'en a pas besoin. Ce n'est pas du tout la même chose. Reste que l'inflation et la réduction du pouvoir d'achat se constatent sur le terrain. Brigitte Saint-Germain, secrétaire divisionnaire des relations publiques de l'Armée du Salut, signale que les boutiques observent une hausse d'achalandage de 10% par rapport à l'an dernier. Les ménages moins nantis sont plus nombreux à s'approvisionner aux banques alimentaires et du même coup à fréquenter les boutiques de l'Armée du Salut, dit-elle. Les étudiants aussi sont des habitués. Les organisations ont elles-mêmes subi les effets de l'inflation dans leurs dépenses de loyer et d'essence. Chez Renaissance, un OBNL qui mise sur la réinsertion sociale, on a dû augmenter les prix des articles vendus dans les dernières années tout en tentant de maintenir les prix en deçà du Village des Valeurs, une entreprise privée. Mais en parallèle, Renaissance a haussé le salaire de ses employés. « On voulait que nos employés quittent le salaire minimum », indique Éric Saint-Arnaud, directeur général. Vous écoutez « Les friperies comme mode de vie », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir. La revente. Pour les revendeurs, les magasins de seconde main sont une aubaine, car rien n'est plus simple que d'y acheter des articles à petit prix et de les mettre en vente sur une plateforme telle que Marketplace ou Kijiji. Brigitte Saint-Germain affirme qu'ils sont facilement reconnaissables quand ils entrent dans une boutique. C'est quelque chose qui nous préoccupe, mais c'est difficile de suivre ces gens-là et de vérifier par la suite où ça s'en va, explique-t-elle. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Ce n'est pas illégal, comme tel, d'acheter des choses et en faire ce que tu veux après. Comme bien d'autres boutiques, l'Armée du Salut tente d'ajuster à la hausse les prix des biens susceptibles d'être revendus. Ça demeure des prix abordables, mais les objets de valeur vont peut-être être 20 à 25% plus chers. Les magasins Renaissance sont aussi confrontés à ce problème et ajustent le prix de certains articles en conséquence. Il faut trouver le bon équilibre, mais il y aura toujours des trésors, soutient le directeur général Éric Saint-Arnaud. Une des stratégies de l'organisation, dit-il, c'est de regarnir les tablettes avec de nouveaux articles à n'importe quelle heure de la journée, 7 jours sur 7. De cette manière, il devient inutile de se ruer dans les boutiques à l'ouverture en pensant pouvoir s'approprier les plus beaux morceaux. Des vieilleries chères. Il reste que les prix élevés de certains articles font sourciller certains clients qui jugent qu'avec des dons, les magasins de biens usagés devraient être plus raisonnables. C'est d'ailleurs dénoncé par les clients du Village des valeurs qui, dans un groupe sur Facebook, recense à l'échelle du Canada les prix exorbitants de certains articles. Des objets du Dollarama vendus plus cher que neufs, avec l'étiquette « du Dollarama encore en place ». Un ensemble de bols Pyrex à 199 $, des bougies à moitié consumées pour 5,99 $ ou plus, et des bouteilles de vin vide à 14,99 $. 10%, c'est la hausse par rapport à l'an dernier de l'achalandage dans les boutiques de l'Armée du Salut, exprimée en pourcentage. Le Village des valeurs est une entreprise privée cotée en bourse, mais Caroline Belle-Rose juge qu'il y a aussi des trésors à y dénicher. Les gens sont insultés parce qu'ils donnent des choses et que celles-ci sont revendues. Le Village des valeurs est une business, mais quand on achète là, on remplit quand même certains critères. C'est bon pour la planète et c'est bon pour mon portefeuille. Pour moi, la différence de prix est suffisante. Même en voyage, les adeptes des friperies ne se reposent pas. Quand je vais à Montréal ou à Québec, il faut que je me rajoute du temps pour pouvoir faire le tour des magasins de seconde main, confie Amélie Mass. Chic et vintage. L'engouement pour le seconde main ne se dément pas. À la boutique Les Petits Frères, dans le plateau Mont-Royal, on note une croissance de 5 à 15 % par an dans la dernière décennie. L'organisme fondé il y a plus de 60 ans a récemment ouvert une nouvelle boutique sur l'avenue du Mont-Royal, profitant de l'attrait pour les articles vintage. Les dons augmentent de manière proportionnelle aux ventes, heureusement pour nous, indique David Stark, directeur des activités commerciales à la boutique. Les vêtements griffés de seconde main ont aussi la cote. À Québec, Michel Lichtenberg a ouvert au printemps dernier une boutique spécialisée dans la vente de vêtements usagés haut de gamme. À l'instar de Ruse à Montréal, oh là là, Boutique Éco-Chic propose aux propriétaires de vêtements ou accessoires griffés de mettre en consigne leurs trésors. S'ils sont vendus, les revenus sont partagés entre le vendeur ou la vendeuse et la boutique. C'est du haut de gamme dans ce sens où j'ai du Chanel, Gucci, Fendi, etc. Mais j'ai aussi voulu inclure des choses vintage que j'ai sélectionnées. J'ai des articles à 1 000 $, mais j'ai aussi des articles à 50 $. C'était « Les friperies comme mode de vie », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir.